Alors, des petites questions comme ça, rapides, faut pas...
Quoi, pourquoi?
J'adore voir le trouble de...
Parce que c'est si riche, il y a tellement de choses à dire sur votre carrière.
Les légendes de la chanson française. Un podcast M Radio avec Isabelle Jamy.
Bonjour Michel Fugain.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien. Bah, c'est le plus beau moment de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année, je pense. Je suis très heureuse de vous rencontrer. À M Radio, on est fan de vous. Donc on découvre là ce nouvel album.
Oui.
La vie, l'amour, etc.
Oui.
Donc dans cet album, vous chantez encore et toujours avec cette joie de vivre, cet optimisme, ce dynamisme. Et on a envie de chanter avec vous dès le début.
Je ne sais pas comment répondre à ce bouquet de félicitations.
Ah non, c'est top.
C'est, si les gens ont envie de chanter, c'est bien, c'est le but atteint, parce que je ne fais que des chansons pour chanter.
Et ouais.
Bon, il faut quand même qu'il y ait que ça corresponde à une certaine forme. Il ne faut pas que c'est n'importe comment. Donc, il y a des choix musicaux qui sont faits, bien sûr. Et j'aime bien cet album. J'aime pas imaginer que c'est le dernier.
Ah bah moi non plus.
Non, je le fais pas. Mais en tout cas, fait avec toute l'équipe, toute notre équipe qui s'est construite au fil des années.
Ouais.
Que du bonheur au départ.
D'accord.
Est-ce qu'il y aura du bonheur à l'arrivée, on verra.
J'en suis sûre. Le titre de l'album, c'est « La vie, l'amour, etc.
Ouais. »
Et il y a quoi dans les « etc. »
L'expression de « original »,
ouais, »,«
originelle », c'est « la vie, l'amour, la mort », qui sont les trois thèmes dont toutes les œuvres artistiques sont inspirées.
Mmh.
C'est les trois thèmes principaux.
Tout un programme.
La vie, l'amour, la mort. La vie, l'amour, ça me va très bien. Mettre la mort sur mon affiche,
oh non.
Non, j'avais pas envie.
Et d'ailleurs, ça m'a étonnée parce que Michel Sardou, en 2004, a sorti un album qui s'appelle « La vie, la mort, etc. »
Ah bon?
Oui.
« La vie, la mort, etc. »
etc. Je vous l'apprends.
Il a pas mis l'amour.
Il a pas mis l'amour.
Alors ça...
Alors moi, je me suis dit...
Alors ça, Michel...
« La vie, la mort, etc. » Et puis comme il a été quand même au début de toute l'histoire, Michel Sardou... Je me suis dit, bon, c'est peut-être un clin d'œil, voilà.
Non, c'est pas un clin d'œil, mais je garde pour Michel une tendresse tout à fait particulière, parce que c'est des années inoubliables, fondatrices, inoubliables. J'ai eu à raconter tout ça
il n'y
a pas longtemps.
Oui.
Et j'ai raconté ça avec... J'ai ressenti une grosse émotion, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Grosse émotion. Ouais, cette espèce de liberté, d'insouciance qui a fait que... Bah, on a fait le chemin. Il y a qu'un truc que je regrette. Je sais pas si les gens vont comprendre parce qu'ils sont habitués à se faire des selfies partout.
Mmh.
Mais on n'avait pas, nous, ce système de selfies.
Ah oui.
Et un jour, Michel Sardou a passé une audition chez Barclay. Au début, il était personne. Et il était accompagné pour ses quatre premières chansons par Michel Fugain. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un selfie de Sardou accompagné par Fugain. Et je pense que c'était une photo historique.
Historique.
Oui.
Est-ce que vous croyez au hasard? Parce que quand même, ce jour où il vous dit « oui, j'ai des chansons, mais j'ai pas de mélodie », en fait, vous prenez des cours de théâtre ensemble. Et l'idée, c'est de s'amuser, de se rencontrer des amis et voilà, et de rencontrer du
Michel,
monde.
Michel prenait des cours de théâtre et moi, je cherchais des copains.
Ouais.
Je cherchais des copains, ça faisait pas longtemps que j'étais à Paris. J'avais plus de poche, je suis un mec de bande, ok?
Ouais.
Je m'étiolais, quoi.
Vous arriviez de Grenoble.
J'arrivais de Grenoble.
Ouais. Ouais.
Et j'ai dit, mais où est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis, mais un cours de comédie, il y a des mecs qui lisent des textes, qui doivent être pas trop cons, bonne qualité pour faire des potes. Et puis finalement, les filles qu'il y a dans les cours d'art dramatique.
Elles doivent être sympas.
Si elles sont plutôt jolies, donc je pensais que j'étais gagnant sur tous les tableaux.
Et en fait, vous pensiez trouver l'amour, l'amitié, et vous avez trouvé quelque part le début d'une carrière dans ce cours de théâtre.
Je ne savais pas.
Mais
à ce moment-là, je suis cinéaste, d'accord?
Ouais.
Je suis assistant réalisateur. Et donc, ce truc annexe, c'est pour meubler mes soirées avec des potes et éventuellement des nanas. C'est un soir, Michel nous dit, je veux passer une audition chez Barclay. Il y a Patrice Lafont qui est là parce qu'on est quatre potes inséparables. Patrice est là, un autre garçon qui s'appelle Patrick Vilchez. Et il nous dit ça, mais qu'est-ce que tu vas foutre? Et il nous répond, mais je vais chanter une chanson de Johnny, ça m'a frappé parce que ça reste là. Au début, il disait, ouais, mais Johnny, qu'il était fan de Johnny. Et là, il dit, puis j'écris des textes. Patrice Lafont dit, mais j'écris des textes aussi. Patrick Vilches, moi j'écris des poèmes. Moi j'avais une gratte, j'avais une guitare. Et là, ce soir-là, comme des inconscients complets, maintenant que je sais ce que c'est que de faire des chansons, on lui dit, mais on va te les faire tes chansons.
C'est génial.
Et le lendemain matin, après le petit-déj, après mon thé au lait, j'ai commencé à prendre ma guitare et à faire. Et là, c'est ce matin-là que j'ai découvert qu'il y avait des airs qui venaient. Je travaillais sur un texte de Patrick Vilches, j'étais en colloque avec lui, et ça a commencé, j'ai adoré faire ça. J'arrive à faire 4 chansons, la première chanson de Michel Sardou, j'ai dû le dire, parce que personne s'en souvenait, j'ai dû le dire dans un hommage à Patrice qui s'est fait à la Téloche. J'ai dit, mais il a fait la première chanson de Michel Sardou qui s'appelait Le Madras.
Ok.
Premier 45 tours ouais. De Michel.
D'où elle vient cette guitare? Parce que... moi, ce que je sais de votre enfance, c'est que votre papa vous disait « Tu seras chirurgien, j'aimerais que tu sois neurochirurgien. » Rien que ça. Et votre maman, elle vous imaginait faire du piano. Je ne me trompe pas?
Ma maman, qui s'appelait Mamine, en fait, et que tout le monde appelait Mamine, même mes potes, ils appelaient ouais. Mamine. Elle, c'était de l'amour intégral. C'était un gros bloc d'amour italienne, enfin, issue d'Italien, mes grands-parents étaient italiens, ma grand-mère a jamais parlé un français correct, mais elle, ce bloc d'amour, dire quoi que je fasse, de toute façon, c'était bien. Mon père, lui, voulait que je sois neurochirurgien, puis un jour, je lui ai dit, pas, ouais. Non, je ne serai pas neurochirurgien.
Dans une lettre, parce que vous avez pas osé lui dire en face.
Absolument, ouais, mais vous savez tout, là. J'ai fait une lettre, le jour où je suis arrivé à ma majorité, c'est-à-dire j'ai eu 21 ans, puisque ouais. Nous, pour ma génération, 21 ouais. ans. Là, je lui ai fait une lettre, papa, je ne serai pas médecin, je veux faire du cinéma, je veux être cinéaste. J'ai posé la lettre, je me suis cassé, hein, parce que
bah oui, c'est normal.
J'attendais une réaction brutale.
C'est le père, quand même, oui.
Ouais, j'attendais une réaction brutale. Je suis allé chez un pote qui savait que je me tirais et qui m'a dit, viens à la maison. Donc, je suis allé chez lui, j'ai rempoté. Parce qu'il faisait des fleurs, des, je ne sais pas comment on appelle ça, horticulteur.
Ah oui, ok.
Et j'ai rempoté des bégonias Rex pendant une semaine.
Ça vide la tête.
Oh. Et j'étais au courant de tout ce qui se passait à la maison. Mon père, je le connaissais bien aussi. Il était incapable d'imaginer que je puisse quitter la maison, laisser la famille et tout ça. Ouais. C'est, pour lui, c'était impossible. Et il savait aussi que ma mère savait où j'étais.
Ah oui.
Et il lui a dit, dis-lui de rentrer.
Ah.
Je suis rentrée, je lui ai... Si vous voulez me faire raconter ma vie, on est parti pour un
moment. Non, mais c'est beau, mais moi j'adore, parce que j'adore ce moment. On va revenir à cette première guitare, parce que j'aimerais savoir d'où elle vient. En tout cas, moi, ce que j'avais compris, c'est que votre maman, elle sentait déjà qu'il y avait quelque chose avec la musique.
La guitare, c'est ma grand-mère.
C'est votre grand-mère, d'accord.
Ma grand-mère paternelle, qui pour mes 20 ans, m'a offert une guitare.
Quelle belle idée.
J'avais commencé médecine, on aurait pu dire, elle va lui acheter une serviette de médecin ou un truc.
Ou un microscope.
Non, elle m'a acheté une guitare à 20 ans. Une guitare sur laquelle j'ai fait toutes mes premières chansons, quoi. Et jusqu'à ce qu'on me la vole dans une voiture, me casse le mec qui a cassé, qui est une gratte, qui n'avait aucune valeur autre que sentimentale.
Affective.
Donc ça, je lui dis, si m'entend, t'es qu'un con.
Voilà, bah, je suis d'accord, t'es qu'un con, toi qui as volé la guitare de Michel Fugain. Vous avez racheté une guitare du coup après ça?
Ah oui,
obligé,
bien sûr, j'ai racheté une guitare.
Parce que vous avez senti que là...
Il me l'a volé à un moment où je commençais à avoir des sous.
Ouais.
Parce que j'avais des trucs qui avaient marché, ouais. On faisait des spectacles. Quand vous entendez la chanson de Sardou qui s'appelle « Dans les balles populaires
ouais. »,
c'est pas une description...
Vous y étiez vraiment dans les balles populaires.
C'est qu'on y était... Chaque fois qu'on jouait, ouais. Il n'y avait pas de salle en France. Il n'y avait pas de salle de spectacle, ouais. À part une salle à Lyon, une salle à Marseille, et encore l'Alcazar, je crois qu'il s'appelait l'Alcazar ou quelque chose comme ça. Il y avait l'Olympia à Paris, mais il n'y avait pas de salle en France.
Ouais, c'est fou.
Donc, on jouait dans des balles, en attraction de balles, c'est-à-dire à 10h30, 11h, allez, hop là, c'est le chanteur qui s'y colle ou la chanteuse, ouais. Et on chantait nos... 6-7 chansons, 8 chansons, et puis on prenait un cacheton et on partait. Ouais.
Je voudrais qu'on parle de l'album parce qu'il est tellement beau. On l'a adoré à M Radio. Et il y a une chanson qui s'appelle La rue du temps qui passe.
La rue du temps qui passe.
Et ce que je trouve magnifique, parce que c'est quand même un thème lourd, ce temps qui passe et qu'on n'a plus.
D'où c'est parti? Il y a une origine.
Ok.
Les toutes premières fois où j'ai vu cette pub, qui est une pub d'une assurance ou je ne sais pas quoi, où on voit. dans une rue.
Je la vois.
Avec le temps qui passe, avec de génération en pré-génération.
Oui, avec une
il y en a une
triste,
autre. Il y en
oui.
a une autre avec les mecs qui font du vélo, avec il prend petit pied à jour.
Et on les voit vieillir, c'est
ouais,
ça, avoir
on
des
voit
enfants
le
et
fils
tout ça.
Qui est avec son père. Moi, ça m'émeut.
Ouais.
Je suis très ému par ce genre de truc. Je suis ému par l'idée de la transmission par la famille, machin, ben bien sûr, je suis pas un fou non plus de la famille, la défense de la famille.
Mais la transmission, c'est un grand truc dans votre carrière, hein, avec les écoles que vous avez créées,
oui,
avec tout ce que vous avez appris
oui.
à plein de monde, c'est quelque chose d'hyper important.
Oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire.
Ouais.
Mais la rue du temps qui passe, et quand j'ai eu cette mélodie, et qu'il était, il était temps de la paroler, j'ai eu Claude Lemay à la maison, et je lui ai dit, fais-moi une chanson sur une rue. Et comme je lui avais parlé de cette pub, il dit la rue du temps qui passe, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est juste pile, quoi.
Il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre carrière, c'est que quand vous étiez assistant de l'assistant d'Yves Robert, grâce à votre papa, qui vous avez fait rencontrer quelqu'un du... Enfin, un médecin qui s'occupait de gens du showbiz.
Je suis rentré donc de chez mon pote.
Oui, on y revient. Après les pots de fleurs.
Après les pots de fleurs, après les Bigognarix. J'arrive, il me fait, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Faire du cinéma, ça veut rien dire pour mon père. Ça voulait rien dire. Et il prend le téléphone, il appelle à Paris son pote d'enfance de lui. Hein.
D'accord.
Son pote d'enfance qui était médecin à Paris. Et il lui dit, Guy, tu te rends compte, mon con de fils, il veut faire du cinéma. Et là, Guy, jeune homme, lui dit, mais c'est vachement bien. Ouais. Envoie-le-moi. Et je vais lui présenter des cinéastes.
Ça, c'est génial. Ouais.
Moi, tel que vous me voyez, moi, j'ai bouffé avec Nicolas Ray.
Waouh!
Qui venait de tourner Les 55 jours à Pékin. Qui avait.
Il n'y avait pas le selfie encore à ce moment-là, c'est énervant.
Il
n'y
avait que dalle,
toujours
il y avait que dalle.
Pas.
Mais c'est des moments ouais. absolument inoubliaux. Donc, c'est lui qui m'a présenté Guy Blanc.
Ce que je trouve très fort dans cette histoire, c'est que vous arrivez sur le tournage d'Yves Robert. Les copains. Et là, la musique vous rattrape encore.
Si vous voulez des images,
oui.
On est dans la forêt de Fontainebleau.
Okay.
On tourne dans la forêt de Fontainebleau. Et on est tous là. Yves arrive avec un petit bobino. On ne sait pas ce que c'est. Il demande le Nagra. Nagra, pour tous les hommes, c'est un magnétoscope, un magnétophone de l'époque qui servait le magnétophone de cinéma.
Avec les bandes,
Ça. Il demande le Nagra et il met le petit bobino. Suivez bien tout. Hein.
Je suis.
Et là, il y a Poiret, Bedos, Rich, tous les acteurs qui sont là, toute l'équipe technique. Vous voyez une mêlée de rugby?
Très bien.
Eh ben, exactement tout cela.
au-dessus
du Nagra. Et il lance le Nagra. Et on entend, inoubliable, on entend, c'est-à-dire un mec qui remet sa chaise en place dans une cuisine et sur le carrelage, d'accord?
Incroyable, ouais.
Et là, il commence et il chante. Non, ce n'était pas le... Et on entend les copains d'abord,
ouais.
Que personne ne connaissait.
C'était la première fois que
c'était la première fois, il l'avait ouais. enregistré dans la nuit, d'accord.
Et pour la première fois, cette chanson a été entendue dans la forêt de Fontainebleau. C'est quand dans même la... incroyable.
Oui, par ce bloc
cette
de gens-là qui n'ont vraisemblablement jamais oublié,
bah
pour
oui.
ceux qui sont encore vivants.
C'est beau, c'est vraiment...
Vous avez encore des trucs c'est à partager très... Moi, je
plein,
peux.
Ah, mais plein. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me sidère. C'est cette chanson que moi j'ai chantée à l'école et d'ailleurs tous les parents pleuraient parce que elle est tellement émouvante. Je n'aurai pas le temps.
Ouais.
Qu'on chante souvent dans les classes et qu'on étudie.
Ouais.
Hein.
Ouais, absolument.
Cette mélodie, vous dites, je l'ai trouvée très rapidement au piano, mais il fallait aller manger, donc je suis allée manger. Et moi je me dis, mais vous auriez pu l'oublier cette mélodie.
Si je l'oublie, c'est qu'elle est pas bonne.
Ok.
On va pas se précipiter. Oui. Je ne me précipite pas sur le magnétophone.
D'accord. Ouais.
C'est-à-dire, je fais un truc. Ça me plaît, et je dis maintenant, voyons si je m'en souviens après bouffer. et je reviens après, mais il y a le qui m'est directement, quoi.
Ah, vous pouviez retrouver grâce à ça. C'était le levier,
ouais,
quoi.
Mais ce qui m'intéressait dedans, et personne n'a jamais noté. Mais en fait, je suis arrivé dans la maison où j'habitais à ce moment-là, et je venais d'entendre.
Les Beatles? Non.
Non. C'est le petit petits tambours ou je sais pas quoi.
Ah oui, oui, d'accord, le petit tambour.
Et je trouvais ça tellement joli, tellement bien, je me dis, et je me mets au piano, puis je mets vraiment inspiration directe, quoi. Et je fais et là, il dit, putain.
Magnifique.
C'est joli. Hein,
on le sent quand c'est...
C'est joli c'est ce que j'ai fait.
Ouais. Et on le sent hein, quand c'est beau, quand c'est ça, quoi. En fait, vous le sentez tout de suite.
C'est la magie de la création, ça.
Ouais.
C'est que vous savez si vous êtes dedans ou si vous n'êtes pas dedans.
Il y a une chanson qui s'appelle Paris dans l'album. Et pareil, musicalement, ça swing.
J'ai un truc,
Paris.
Il y a une histoire. Vous voulez des histoires?
Mais j'adore. Voilà. Mais je veux vous parler du petit accordéon aussi que j'adore dans Paris. Vous faites swinguer comme ça? Et vous dites, Paris, c'est la ville qui protège les amoureux.
Paris, ville des amoureux, Paris.
Ouais.
Cette mélodie, elle a 20 ans.
Ah bon ?
J'étais amoureux et je suis toujours amoureux d'une blonde qui doit être par là.
Juste derrière vous.
elle est derrière moi. J'ai fait cette chanson et on a travaillé avec Claude Lemel à l'époque déjà. Et je lui dis, cette mélodie, elle pue Paris, elle sent Paris.
Ah c'est marrant.
Je fonce sur le net et je vois plein de chansons sur Paris.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Oui, oui, ouais. Non. De Paris d'avant, il y en a plein.
Ouais.
Maintenant, il y en a encore... qui sont faites par des chanteurs et des groupes, c'est « Paris tu pues, Paris je t'aime plus, Paris... » Arrêtez tout les mecs, pour tous les touristes du monde, Paris sera toujours Paris. Paris c'est quelque chose de particulier, quelque chose qui ressemble à la chanson quoi.
Bah oui.
C'est-à-dire, moi je m'en fous des embouteillages, mais tant que je vis en Corse alors...
voilà.
Mais c'est vrai que les Parisiens, même les Parisiens, ne voient plus Paris. Alors que, et on le voit encore moins, je raconte toujours, quand j'avais un ami qui arrivait à Paris, ou une amie qui arrivait à Paris, qui ne connaissait pas Paris, je le mettais dans ma bagnole le soir.
Paris by night.
Et je prenais la rive gauche, la rive droite, pardon, le Pompidou, là, et je faisais toute la traversée avec le pont Alexandre
III, Birakeim
et
tout ça. Mais oui.
Ça n'a, et mais c'est inestimable.
Et ça n'a pas changé. C'est vrai que c'est
ce
monument.
Sauf qu'on le voit plus.
Mais oui, c'est vrai. Et grâce à cette chanson, on revoit Paris.
Terrible.
Il y a aussi le sourire. Le plus beau sourire, c'est celui du matin au réveil. Alors là, merveilleuse phrase. Et franchement, la personne qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Quelqu'un qui vous dit ton plus beau sourire, tu l'as au réveil.
Oui,
ça, c'est... Absolument. Pour moi, ça, c'est la définition de l'amour.
Oui, le plus beau sourire, c'est celui du matin au réveil.
Sans artifice, sans rien. Première pensée. Et alors, pour vous, c'est quoi la définition de l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi trouver l'amour?
Il n'y a pas de définition possible.
Mmh.
Je fais partie de ces extrêmement heureux, bénis de je ne sais pas qui, d'avoir rencontré, à 60 ans, la femme qui m'était destinée. C'est-à-dire, j'ai toujours vu ça comme ça. On sait tous les deux qu'on serait rencontrés 20 ans avant, elle ne serait pas passée, elle ne serait pas arrêtée.
Vous auriez pas
je l'ai rencontrée, moi j'avais 60 ans, elle avait 22 ans de moins. C'est depuis quelque chose dont je dis c'est extrêmement rare. J'ai eu ce bol incroyable de tomber sur la femme qui m'était destinée. C'est-à-dire, on est strictement complémentaires, strictement complémentaires. Ouais. C'est une artiste.
Mais oui.
Je suis un artiste.
Et vous vous retrouvez dans la musique, dans...
On se retrouve sur scène ensemble.
Sur scène, vous chantez ensemble.
Ouais, ouais, ouais. Mais
c'est trop beau.
Ensemble, elle chante toute seule.
Et vous dites que c'est votre moitié d'orange.
C'est moitié d'orange. Oui, c'est ma moitié d'orange.
Je trouve ça très joli. Ouais. Est-ce que vous avez écrit dans cet album? Alors, Claude Lemel, ça fait depuis toujours.
Claude Lemel, il a écrit une chanson et demie.
D'accord.
Il a écrit. La rue du temps qui passe, et les couplets de Paris. C'est moi qui fais les refrains. J'ai écrit les refrains.
Mais
tout le reste, c'est moi.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, est-ce que, alors, c'est grâce à votre moitié d'orange que vous vous êtes mis à écrire? Parce que de ce que je sais, moi, c'est que quand même, vous avez travaillé avec beaucoup de paroliers et vous écriviez évidemment toutes les mélodies.
Avec lesquelles j'ai appris à faire des chansons. Hein, faut pas croire.
D'accord. Donc eux aussi vous ont transmis.
Mais
sans
compter, mais je n'ai fait que regarder leur façon de faire, même si de temps en temps, et puis il faudrait faire une analyse plus fine, même si je sais qu'on avait un chanteur en commun, que ce soit Pierre, Maurice et moi, on avait un chanteur en commun qui s'appelait Michel Fugain, et que les chansons de Michel Fugain pouvaient ne pas coller tout le temps, au plus haut point, au plus haut degré, avec ce que je suis moi. J'ai souvent dit que j'étais pas chanteur, je suis pas chanteur. Non, me dites pas, c'est un peu parce que vous chantez, non. Je suis pas chanteur, j'ai pas une formation de chanteur. Mmh.
Vous êtes un parleur sur mélodie.
Je suis un parleur en musique. Surtout, je suis un faiseur de chansons. Ouais. Avant de chanter, j'étais un faiseur de chansons pour les autres. Ouais. Je n'ai rien changé à ma manière. C'est-à-dire, j'ai écrit simplement pour Michel Fugain jusqu'à ce que j'écrive mes textes. Ça fait un moment que j'écris des textes.
Ouais.
Mais je sais que les chansons que j'ai écrites sur cet album sont très différentes des chansons que j'ai pu faire jusque-là. Même si la sève
elle est la même. Oui, voilà. C'était là depuis longtemps, mais c'est dans cet album-là que c'est arrivé, clairement. C'est l'album.
Ils n'auraient pas. L'un et l'autre, ou l'un. D'ailleurs, Claude ne me l'a jamais fait, et je ne lui ai jamais demandé non plus. Alors pourquoi ?
Moi je veux savoir pourquoi.
Parce que j'habite en Corse.
C'est ça qui vous fait écrire ?
C'est ça qui fait que j'ai du temps.
D'accord.
Il faut du temps pour écrire. Je suis peut-être un peu moins feignant. Moi je suis dans la dernière ligne droite, d'accord, que je le veuille ou non.
Elle peut être très longue, cette ligne droite. Hein. Elle peut durer très longtemps, ligne droite.
Ne vous inquiétez pas, je suis le contraire d'un suicidaire. C'est pour qu'il y ait le moins de malentendus possible. Et c'est vraisemblablement pour ça que j'ai fait la dernière chanson qui s'appelle « Pourquoi je chante ?»
Ouais.
Et qui est aussi la dernière chanson. C'est la dernière chanson du spectacle que je mets dans le spectacle dès maintenant.
Et vous dites quelque chose de très joli à la fin de cette chanson « Pourquoi je chante ?» C'est qu'un jour, quelqu'un d'autre chantera aussi.
Oui, et peut-être, un jour peut-être, un plus jeune et moins mort que moi, reprendra ma chanson et chantera.
Ouais.
Mais il chantera... Ni les hauts murs, ni les censures, ni les dictatures au pouvoir ne peuvent étouffer les cris que sont les chants d'espoir.
Merci pour ça, c'est très très beau. Merci pour ce moment.
À pied.
Alors il y a une chanson très marrante qui s'appelle Les Bourrins. Les Bourrins.
Oui, parce que je suis.
Une chanson contre la connerie.
Je suis frappé par. Une espèce de dégénérescence de nos cerveaux.
Bah ouais.
C'est-à-dire, les cons sont en train de gagner, il y en a partout.
Oui.
Le révélateur, c'est le web, le net, quoi. Et c'est pour ça que dans le spectacle, en général, je dis il y a dû avoir un lâcher de cons dans les années 90. Mais le drame, c'est qu'ils se reproduisent entre eux.
Et vous dites, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont raison.
Ah ouais, ça c'est clair. Mais ça, c'est presque une devise. Je me demande si c'est pas ma devise. C'est pas parce qu'ils sont les plus nombreux
qu'ils ont raison. Ah ben j'allais vous demander quelle était votre devise. Donc c'est très bien comme ça.
C'est un truc que j'ai instauré en tant que devise.
Il y a une chance.
Et ça s'avère toujours vrai. Hein.
Cool. Donc ça, c'est la chanson qu'il faut écouter le matin au réveil parce que déjà elle nous met bien. Mais derrière. Parce que les chœurs sont top, ils nous emmènent. Mais derrière, il y a quand même un message qui est que le bateau coule. Il y a un message
coule juste avant que le bateau coule.
Et pour moi, elle résonne très fort avec Bravo Monsieur le Monde.
Quand je fais Bravo Monsieur le Monde dans le spectacle, je vous raconte le spectacle.
Oui, mais on viendra le voir de toute façon.
À la fin, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte, cette chanson, elle a 50 ans.
Voilà.
Elle a 50 ans. Et la problématique est restée la même. Qu'est-ce qu'on a foutu pendant 50 ans pour que la problématique reste la même? Je veux bien qu'on soit aprogain, mais être con à ce point-là, c'est coupable, quoi. J'aimerais ne pas dire ça, avoir à dire ça, et de finir Bravo Monsieur le Monde et de dire cool, juste avant que le bateau coule. J'aimerais avoir à dire le moins, à moins que ça nous donne l'occasion de rigoler, et je ne vais pas m'en priver. Hein.
Mais c'est ça qui est génial dans Cool, c'est qu'elle reste quand même encore très positive, mais que derrière le message, il est lourd, pour les prochaines générations, pour nos enfants.
C'est on déconne avec quelque chose qui est grave.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que c'est déconner? J'en sais rien. C'est ne pas dramatiser quelque chose qui est grave. Parce que je pense que les gens qui dramatisent tout, ce n'est pas des gens qui entraînent.
Ouais. On va venir vous voir sur scène.
Allez.
Oui, vraiment, avec beaucoup de bonheur. Vous allez faire tous les lundis.
Les lundis de Bobino.
Les lundis de Bobino.
Ouais, j'adore l'idée.
Alors moi, pourquoi j'adore l'idée, déjà pour vous retrouver sur scène, mais aussi parce que le dimanche soir, c'est une angoisse pour beaucoup de personnes. Et là, ça va nous faire aimer les dimanches soirs, parce qu'on saura que le lundi, on viendra vous voir sur scène.
Ah.
Et ça, c'est parfait.
Ah, c'est un jeu de billard.
Ah oui.
Mais donc, j'ai adoré l'idée, parce ouais. qu'ils ont, on dit, il faut programmer Paris, programmer une salle.
Ouais.
Ma jauge idéale, c'est 1500 à 2000. Je vois tout le monde. Plus gros, ça me tue.
Ouais.
Pourquoi on ne fait pas plusieurs soirs Bobino ? C'est une salle qui fait à peu près 1000 places. 4 soirs, on fait 4000. Hein, ouais. 4000 personnes que je vais voir
ouais.
personnellement. Quoi,
oui.
Parce qu'il y a, la proximité. Et j'ai adoré l'idée des lundis de Bobino. Voilà.
C'est parfait. Nous aussi, on
c'est
adore.
C'est ma coquetterie personnelle.
Et puis après, vous serez en tournée dans toute la France.
Oh oui,
vous n'allez pas arrêter.
Quelques années, ouais.
Génial. Ouais, merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi l'endroit dans lequel on est, qui est très sympa. L'hôtel Les Jardins du Faubourg.
Les
Jardins du Faubourg, qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et merci,
Michel. Merci de m'avoir accueilli si tôt le matin.
Oh là là, il y aurait encore tellement de choses à dire sur vous. Mais on se reverra.
On se reverra, je viens vous faire la suite.
Après la tournée, et puis merci pour ce bel album.
Isabelle Giammi reçoit Michel Fugain, légende de la chanson française.